la planète. Ah, t'entends le chauffage, toi?
Ouais, t'entends le...
Bienvenue dans Marqueur, l'heure de la marque.
Le monde est marque. Marque sur les vêtements, marque sur les volants, marque sur notre téléphone, marque partout. Mais quel est le rôle exact de la marque dans le développement de nos entreprises? Et qui, au sein de l'entreprise, tient ce rôle de développement, de cohérence, de justesse dans le temps de la marque? Qui sont-ils? Que font-ils? Bienvenue dans Marqueur, le podcast qui met en lumière les travailleurs de la marque. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition et aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir un invité exceptionnel. Originaire de Château-Gontier, ce passionné de marque et de design est loin d'être étranger à l'univers du travail de marque. Avec un physique qui évoque plutôt la force d'un rugbyman, notre invité est depuis 2008 à la tête de la marque VNB, où il exerce son talent en tant que directeur de l'expérience de marque. Au fil des années, il a joué un rôle essentiel dans la création et le développement de nombreuses marques au sein de VNB, apportant une expertise inestimable à chacun de ses projets. Aujourd'hui, il se définit lui-même comme un artisan de l'expérience de marque, cherchant à transcender les limites du design pour créer des expériences mémorables. C'est avec grand plaisir que nous accueillons sur notre podcast M. Richard Zuber, prêt à partager avec nous son insight unique sur le monde fascinant du travail de marque. Bonjour Richard.
Bonjour.
Comment tu vas déjà?
Ça va bien, je suis content que ce soit un podcast parce que sinon je serais tout rouge. Oui, très heureux de découvrir l'exercice, c'est mon premier.
D'accord.
Mon baptême.
Le son est bon, tu t'entends?
Et moi je m'entends, de toute façon je suis... Voilà, j'entends rien aussi, enfin bref.
Ok, donc avec... avant VNB.
Ouais.
Parce que bien sûr on va parler de VNB. Quel est le parcours qui t'a amené jusqu'à travailler sur une marque?
C'est arrivé un peu par hasard. Je me prédestinais pas du tout à ces métiers-là. Et en fait, en 2006, suite à des aléas professionnels, on se retrouve avec ma femme à revenir à Château-Gontier, tout à fait par hasard. Et là, j'ai fait des études de commerce, bac plus 5, EM Grenoble. Derrière,
un master, je crois, c'est ça.
Et derrière, j'ai refait un master en marketing direct et commerce électronique. Et donc, je déboule à Château-Gontier, joyeuse bourgade de 15 000 habitants avec mon bac plus 6. Et ça intéresse pas grand monde, en fait. Ou si, mais limite, ça fait peur. Donc, du coup, je trouve pas tout de suite d'opportunité dans un cadre salarial. Et donc, j'ai un an et demi de chômage devant moi. Et là, je me retrouve bénévole du club de rugby et à gérer les sujets communication. Et en fait, c'est là que tout a commencé. Et c'est tout en auto-formation. Je me suis formé à la création de sites web, au logiciel de créa, etc. Et j'ai dépanné bénévolement. J'ai fabriqué des monstres visuels, des monstres digitaux, parce que c'était le début.
Des monstres, pourquoi tu dis monstres?
Et c'était pas Jojo, hein. Je pense qu'il n'y a plus rien qui existe, heureusement, comme preuve. J'ai eu une période où, du coup, je faisais tout moi-même. Et après, j'ai eu la chance d'embaucher des vrais spécialistes du métier, des graphistes, des créas, etc. Et là, on a vraiment vu la différence et j'ai arrêté de fabriquer des choses. Je suis resté plutôt dans les dimensions strat et direction, orientation. DA, parce que j'avais quand même un regard, un œil, un sens qui fonctionne à peu près.
DA, direction artistique, hein, pour les personnes
tout qui... Tout à fait. Et du coup, en 2006, là, je suis à Château-Gontier, je bidouille. Il y a 2007, la Coupe du Monde de rugby, j'essaie de faire rapide. Et donc, du coup, on fait un gros événement à Château-Gontier. Alors, un gros événement à Château-Gontier, ça veut dire qu'on arrive à rassembler 2500 personnes. C'est toute chose relative, mais c'est pas mal. Et puis, en bidouillant comme ça, en faisant des choses en bénévolat, sans calcul, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de projet derrière. Je faisais juste pour rendre service et parce que ça m'amusait. Et parce que ça me permettait d'apprendre des choses que je ne connaissais pas non plus. Ça, c'est hyper important dans mon parcours. Ce que j'aime, c'est apprendre. Et du coup, j'ai un collègue du rugby qui me dit « Tiens, j'ai croisé les mecs de VNB. » Je ne sais même pas qui c'était. « Ils ont un boulot pour toi. Il faut que tu fasses une étiquette pour une bière. » J'ai dit « T'es con, quoi. Je ne suis pas graphiste. » Moi, « Mais si, ça va le faire. » Et donc, du coup, je suis l'heureux géniteur de la première identité graphique de la bière La Levrette. Donc, j'ai une histoire... qui n'est pas très reluisante à raconter en société, puisque tout a commencé par une levrette. Et là, on se croise avec les gars de VNB, Et voilà, nanana, ok, on fait l'étiquette, etc. Puis ils me disent, mais t'es graphiste? Et je dis, non, non, pas du tout. Moi, je suis stratégie, marketing, web, etc. Et ils me font, bah écoute, on aura bien besoin de toi, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. VNB, à l'époque, c'est 5 magasins et 5 personnes au siège. Donc, c'est le tout début de l'aventure. Et donc, ils me disent, bah non, mais t'as qu'à monter ta boîte et tu bosses pour nous. Du coup, je me vois là projeté à créer une agence de communication. Et là, c'est un hold-up parce que j'ai jamais bossé dans une agence de communication.
D'accord.
Moi, ce que j'avais, c'est qu'une école de commerce, finalement, ça te prépare à peu près à tous les métiers. Donc, j'étais pas non plus complètement le volet gestion, le volet stratégie, le volet finalement management, communication un peu. Mais finalement, c'est celui que j'ai le plus appris. Le début de mon expérience avec VNB, elle a été en mode externalisé en quelque sorte. J'étais le service marketing externalisé de VNB de 2008 à 2015.
Avec
l'agence 23e homme.
Voilà.
Et pourquoi 23e homme? Parce que sur le rugby, feuille de match, 22 personnes, donc celui qui n'est pas sur le terrain mais qui soutient, qui est le supporter, c'est le 23e homme. Et puis, ils ont changé les règles, je crois. Maintenant, c'est 23 sur une feuille de match. Donc, j'aurais dû m'appeler 24e.
Ah mince, ouais,
et ça faisait pas... trop 24 heures du monde. Allez, c'est tombé. Mais ça traduisait bien la philosophie que j'ai toujours aujourd'hui. C'est-à-dire d'accompagner, d'aider dans les moments forts, dans les moments difficiles aussi. Et sans faux semblant. Pour moi, un supporter, il est là quoi qu'il arrive. Et il n'est pas là non plus que... dans la béatitude, ils sont géniaux, ils sont super. Des fois, ils expriment des frustrations, etc. Et il est entendu. Il y a certains clubs de sport où ils ont un poids colossal, voire des fois trop. Si on prend Marseille, par exemple, c'est assez dingue. Mais je trouve ça bien, moi, je trouve ça intéressant. Mais en fait, le chemin vers la marque, il s'est fait à travers tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que pour me différencier du graphiste du coin ou de l'imprimeur local, et ils ont tous évolué depuis, donc on reste dans l'histoire, hein, il fallait aller plus loin, quoi. C'est-à-dire que répondre à une demande qui est « j'ai besoin d'un flyer pour vendre du pain », bon, c'était un peu limité. Et donc, comme moi, j'avais cette formation école de commerce, là, où on est toujours dans cette approche vision, mission, stratégie, etc., j'avais déjà, dans toutes les discussions que j'avais avec mes clients, « mais c'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre objectif ?» C'était toujours mes premières questions. Et des questions que personne ne leur posait jamais, en fait. Les questions qu'on leur posait d'habitude, c'était plutôt « c'est quoi vos couleurs ?»« comment vous voulez qu'on truc ?» et machin. C'est tout dans le concret. Donc, le fait déjà d'avoir cette discussion-là, que personne ne les challengeait trop là-dessus, machin truc, des fois, ils ne savaient même pas eux-mêmes répondre à cette question, c'était assez rigolo. Et du coup, là, ça faisait un truc où je les mettais parfois mal à l'aise. Mais ça créait aussi cette zone d'échange, de prise de connaissance et de confiance qui a été vraiment le moteur du truc. Et puis, n'ayant jamais bossé en agence de com, à un moment donné, il fallait que je gagne un peu en crédibilité. Donc, j'ai commencé à gratter un petit peu, voir un peu ce qui se faisait. Puis, je voyais des agences de renom qui faisaient des trucs, mais dingues, et qui vendaient ça aussi une blinde. Mmh. Et... alors, c'était pas l'objectif de vendre des trucs à une blinde, mais de faire des trucs géniaux qui m'a motivé. Je me suis dit, il faut aussi que moi, je sois capable de sortir des trucs qui... Et puis, en creusant, en lisant, etc., je suis arrivé assez vite à ces problématiques de marque. Et là, je suis tombé sur des bouquins écrits par des gens brillants qui donnent des cours à HEC, mais c'est des pavés de 500 pages avec tout un tas de trucs hyper compliqués, mais hyper puissants. Et là, je ne voyais pas vraiment comment j'allais pouvoir ramener ça à mes clients de mon environnement local qui est simple. Je ne voyais pas comment moi-même, j'allais pouvoir me déguiser en espèce d'expert marketing. Et puis, je n'avais pas les entreprises non plus en face avec des niveaux de complexité qui justifiaient de mettre en place des méthodologies aussi lourdes. Donc, je commençais par ça, clac, 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 et puis après, j'ai creusé, cherché, jusqu'à tomber sur, finalement, le ZAG de Martine Meyer, qui est pour moi une lecture qui devrait être obligatoire, en fait, pour n'importe qui va créer une entreprise, animer une marque, parce que c'est un gars qui vient du design à la base, et qui a fait la jonction entre le design et le marketing. Pourquoi ZAG? Parce que son slogan, c'était « If you're not zagging, you're lagging ». C'est-à-dire que si votre chemin, il n'est pas spécifique, vous ne faites pas des virages, des trucs et des machins, vous prenez du retard.
Qu'est-ce que tu en as retiré finalement? Qu'est-ce que ça, en quoi ça t'a fait changer ta vision?
Eh bien, en fait, c'est que j'avais enfin un outil qui me permettait pratique, ouais, simple, d'accord, accessible. Et du coup, dans ma posture, moi, qui était de dire, j'accepte pas qu'une petite entreprise n'ait pas accès à la meilleure expertise possible, tout ça parce qu'elle a moins de moyens. En fait, je trouvais ça, toujours trouvé ça horrible. Et donc, du coup, moi, nous, l'objectif chez 23e homme, en tout cas, est ce que j'ai toujours voulu faire. Je reste comme ça. C'est que moi, je partage sans compter toutes mes connaissances, machin, etc. Qui, des fois, passer pour un couillon ou à me faire avoir. Mais je m'en fous. C'est ma vision de la vie. C'est que, on doit partager et tout le monde mérite qu'on lui donne les meilleurs conseils possibles. Et donc, du coup, ce ZAG-là, ouais, je l'ai traduit. Et puis, j'ai commencé à en faire, en fait, l'outil de base de toute relation avec n'importe quel client. Et à force de l'utiliser, de le travailler, eh ben, je me suis fait avoir. Je me suis fait, j'ai compris, en fait, la puissance et la dimension essentielle de ce qu'est une marque, en fait.
Et quels sont, selon toi, je sais pas, peut-être les 3 ou 4 critères qui te paraissent importantes de la construction d'une marque?
La construction d'une marque, déjà, elle est forcément sincère. C'est-à-dire que elle doit être alignée. Moi, c'est le mot alignement qui est celui qui est pour moi le plus important. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis pas baptisé directeur marketing et que du coup personne comprend ce que ça veut dire mon truc là de directeur expérience de marque là. Parce que pour moi la marque c'est un truc à 360. Je pourrais même dire on va dire ouais mais c'est un marketeur, c'est normal machin truc. Mais pour moi tout est marque en fait. Parce que même dans notre quotidien, dans notre vie, on parle de personal branding, machin. Je le fais avec l'accent pour que ça claque. mais oui, tout est marque, en fait, parce que l'image est partout. Et après, ce qui me gêne, c'est quand l'image est fausse. Quand je croise quelqu'un qui n'est pas sincère, je ne suis pas à l'aise. Je n'arrive pas. Je donne ma confiance, d'ailleurs, d'emblée, moi. Je suis plutôt ce genre de gens qui se font avoir, d'ailleurs, parce que j'aime donner d'abord ma confiance. Pour créer les conditions de la confiance, mais par contre, si jamais, si je me fais avoir, quoi, en gros, je la retire immédiatement. C'est-à-dire qu'au début, je la retirais pas tout de suite, et plus je vieillis, et moins je donne de chance, en fait, quoi. C'est assez radical, parce que le temps devient de plus en plus précieux, et j'ai envie de consacrer mon temps à des choses positives. Et tout ce qui est pollution, je le dégage maintenant de manière radicale.
Et tu penses qu'une marque devrait avoir le même cheminement? Ça veut dire ouvrir la confiance, être sincère, authentique, être aligné, comme tu dis, justement, avec ses décisions?
Ça va dépendre de chaque marque, ça. Bien sûr. Parce que la marque, il y a aussi un élément qui est hyper important. Elle naît de la personnalité de ses fondateurs. Ça peut être vrai autrement, mais moi, mon histoire, mon expérience me fait dire que j'ai pas d'exemple aujourd'hui. On pourrait certainement trouver des contre-exemples, mais en tout cas, dans mon parcours à moi, j'ai pas. Et du coup, je fonctionne comme ça. Ça part du... Et on va voir que, de toute façon, ça se reboucle. Puisque si le dirigeant n'est pas à l'aise pour valider sa marque, ça va pas fonctionner, puisque c'est sa marque. C'est-à-dire qu'il doit être capable de la porter comme un t-shirt et de sortir dans la rue sans avoir à s'excuser, quoi. C'est toujours ce que je disais à mes clients. Si votre logo, il vous plaît pas, vous êtes pas capable de le porter sur un t-shirt, c'est qu'il va pas. Donc n'acceptez pas un truc qui vous va pas. Vous allez toujours être mal à l'aise avec et donc du coup, vous allez pas être bien.
Un peu comme un costume qui doit être taillé sur mesure.
C'est ça, voilà. Et tout le monde ne peut pas être Columbo, quoi. C'est le seul qui arrive à voir.
Ouais, mais et Columbo, s'il a pas son expression particulière, son langage particulier, ouais, son intonation de voix,
son costard dégueulasse, bah, 403, bah son petit air.
Bah voilà, tout fonctionne pas avec, quoi. Voilà.
C'est l'image de marque de Columbo.
Exactement.
Et c'est fou, hein. Et en fait, s'il était
Columbo est une marque.
Columbo est sa marque et il est comme ça. Et si Columbo était pas comme ça, s'il déboulait d'un seul coup, non plus avec une 403, mais je sais pas, avec une 406 coupée rutilante, on dirait c'est quoi ce bordel là-haut.
C'est vrai. Ah, c'est incohérence, d'ailleurs, ça ferait peur. Ça créerait un peu de confusion. Et puis même, ça, on se dirait, mince, il y a un problème.
Ah ouais, je pense qu'il y aurait des manifs dans la rue. Et une marque, c'est pareil. Moi, quand j'étais 23e homme, je jouais encore au rugby. J'ai arrêté à 43 ans. Donc, du coup, il m'arrivait d'arriver en rendez-vous avec un œil poké ou alors je boitais, etc. Et les gens, ils disaient, ça va, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Non, c'est pas une bagarre de boîte de nuit, je vous rassure. C'est juste que, bon, le match ce week-end, mon vis-à-vis était plus costaud que moi. Et du coup, j'ai un peu subi. Mais ils aimaient bien, en fait, parce que il y avait ce côté authentique, c'est-à-dire que le mec, il prônent une image issue du rugby, ils jouent vraiment au rugby. Et quand je leur disais que nous, on était supporters de votre business et qu'on allait être avec vous, quitte à ce que ça soit douloureux, ils voyaient bien que c'était pas du flan, parce qu'ils disaient, putain, le mec, il se fait marcher sur la gueule le week-end. Ça veut dire que, ouais, il est capable d'avoir ce don de soi, c'est pas du flan. Et ça a créé une forme de puissance d'alignement qui a été le... L'expérience 23e est assez rigolote parce que j'ai fait zéro prospection pendant toutes les années de ma vie de 23e homme. Et en fait, ça s'est développé de manière organique. Alors, il y a 2-3 premières années, je pense que c'est pour tout le monde. C'est le temps que le maillage se fasse en termes de réseau local. Et puis après, au bout de la 3e année, bah, ça kick. Et puis, si on est aligné, si on est fidèle à ce qu'on fait, bah, du coup, on a les gens qui répondent en fait, à ce signal-là, qui sont sensibles à cette perception de l'image, ben ils viennent en fait et ça devient magnétique et ça vient et quand je parle d'alignement, c'est-à-dire que c'est pas seulement les clients, c'est aussi les collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai jamais fait d'annonce de recrutement pour mon agence. On est passé de moi tout seul à 8 personnes. J'ai jamais fait une annonce de recrutement. C'est que des gens qui sont venus parce que le projet leur plaisait, les attirait. Et ce que je dis souvent, en fait, une marque, quand elle est sincère et quand elle est alignée, elle devient magnétique. Et ça me va bien parce que je suis pas du tout un marketeur
push
de l'acquisition, du lead, tout ça. En fait, j'en ai rien à foutre. J'ai horreur de ça. J'ai horreur du capitalisme, en fait. Il raconte n'importe quoi, il est directeur marketing. En fait, non, j'aime pas. J'aime pas parce que j'aime la dimension d'utilité de l'entreprise. Et quand on parle de marque, c'est là où je vais revenir sur ce que j'ai découvert à travers les méthodologies de marque, c'est que les méthodologies de marque sont presque une psychanalyse de l'entreprise. Elles doivent identifier leur pourquoi. On parlait de Simon Sinek avant, qui est une vidéo de 14 minutes qui est aussi obligatoire pour tout le monde. Le cercle d'or, commencer par le pourquoi. Et pas par le comment, et surtout pas par le quoi, par pitié. Et quand vous aurez vu la vidéo, vous serez, j'espère, d'accord avec ça, parce que c'est un basique. Et pour moi, ouais, Simon Sinek, ça a été aussi une vraie révélation, un vrai déclic. Ensuite, Martine Meyer avec le ZAG. Mmh. Et puis, depuis mes études, c'est là que j'ai commencé à comprendre comment j'apprenais et je suis devenu un accro à l'apprentissage. Et donc, je suis tout le temps en train de lire un bouquin, même s'il est nul, je le termine parce que peut-être que le petit truc que je vais en retenir, il est à la dernière page, donc je lâche pas. Et puis, et s'il est vraiment nul, je l'oublie. Mais il y a toujours un truc à ressortir de chaque lecture, etc. Et après, je prends des notes, tac, tac, tac. Le fait de prendre des notes de ce qui m'a intéressé dans le bouquin, ça fait bouger mes connexions neuronales, paraît-il. Je ne suis pas neuroscientifique, mais il semblerait que ça marche comme ça. Et en fait, je fais évoluer ma réflexion en permanence, en me nourrissant de tout ce que je croise, de lectures, d'échanges, de rencontres. Et j'adore ça, en fait. Il n'y a qu'à partir du moment où je ne suis plus en évolution que j'ai l'impression de mourir. Et donc, pour revenir sur la marque, du coup, en commençant par Neumeyer avec le ZAG, après, il faut réussir à faire émerger les idées auprès des entreprises et des gens qui composent l'entreprise. Parce que l'entreprise, quand je dis le dirigeant, va être vraiment hyper important sur peut-être la dimension de définir la vision et la mission de l'entreprise qui va correspondre à sa conviction initiale. Vision, où je veux aller, l'étoile du berger, qu'est-ce qu'on sera dans 20 ans, si tout va bien, sans limite, ni de budget, ni de moyens. Mon rêve, en fait, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il est? Dans quelle direction j'ai envie d'emmener ce projet? Qui va être ma conviction profonde? Et là, on revient sur cette histoire d'alignement et de sincérité. Si cette vision-là, je n'y crois pas, je ne vais pas être capable d'embarquer qui que ce soit dans l'aventure. Et il y a peu de chances que ce machin devienne magnétique et qu'il attire des gens qui attirent ce projet-là. Donc il faut qu'il y ait une conviction forte. Et donc
en amont de la marque même, c'est ça?
C'est le début.
Ouais, c'est le début.
C'est la première étape. Si déjà il n'y a pas ça, on va nulle part.
Ouais, on peut faire le meilleur design possible, trouver un nom de marque absolument génial, si c'est possible.
C'est une carcasse vide.
C'est une carcasse vide.
On l'a vu sur plein d'exemples d'entreprises qui ont créé des marques, justement, qui étaient hyper green, bobo, bio, machin, super chouette, etc. Puis on se rendait compte derrière que la nana ou le mec, peu importe, traitait ses employés comme de la merde. Et la cabane s'écroule sur le chien. C'est-à-dire
que... c'est même pire que ça. Hein. C'est une déflagration. Hein. C'est-à-dire
voilà, que... le truc meurt.
Ouais, voilà, vaut mieux pas faire que faire une erreur de ce type. Parce que c'est vrai que l'incohérence est punie, crée de la confusion et est punie sévèrement d'un point de vue commercial, on va dire même. L'impact est fort.
Ouais, c'est peut-être la seule fois où je trouve que les réseaux sociaux ont un intérêt.
Ouais, ils ont
ils obligent.
Ouais, ils ont réduit peut-être la distance qu'il peut y avoir entre la réalité et puis c'est vrai. Donc Richard, je te propose maintenant de connaître notre rubrique questions de comptoir, des questions courtes, et s'il te plaît, des réponses courtes, Richard.
Ah, tu as vu que c'était toujours long avec moi.
Est-ce que tu es prêt ?
Je suis concentré.
Bon, c'est très simple. Alors, vas-y. Acoustique ou électrique ?
Électro, j'ai le droit ?
Électro, t'as le droit, pas de souci. Plutôt LinkedIn ou Instagram ?
Plutôt LinkedIn, ouais.
Balade en moto ou plutôt canapé et série ?
Pas le permis moto, mais sinon j'aurais voté ça. Ouais.
Apple ou Samsung ?
Quelle question. Je réponds même pas, quoi. Qu'est-ce que je ferais en Samsung ? Désolé. Non, je suis un Apple addict, j'avoue, j'assume, je peux rien dire contre ça.
Donc Apple.
Mais oui.
C'est clair, ok. Stade toulousain ou stade français ?
Stade toulousain, pour moi, c'est magique. Même si ce qu'a fait Guazini avec le stade français a permis, et faut que je fasse court, mais je pense qu'il faut pas oublier. Pour moi, le stade toulousain incarne la tradition. La tradition, ouais, rugby. Et le stade français a permis de désenclaver le rugby de cette image... un peu d'Épinal, Sud-Ouest, etc.
Les maillots roses.
Les maillots roses, voilà. La dimension spectacle.
Ah oui, la dimension spectacle.
Et Stade français, moi je pense tout de suite à Dominici aussi. On ne peut pas dissocier les deux. Et c'est un mec qui nous a fait rêver quand tu vois Dominici face au Black. Voilà, là, c'est l'apologie pour moi de cet esprit français.
Ah, oui.
David contre Goliath, le petit qui fait chier le gros, etc. Qui fait l'impossible, qui est insupportable, mais qu'on aime.
Donc un peu les deux finalement. Stade toulousain, stade français, un petit peu les deux. Le dernier, vin ou bière ?
Je suis bière, parce que j'ai une intolérance au sulfite. Et donc du coup, je deviens tout rouge quand je bois du vin. Et tout le monde me dit, bois du bio et bois du bio. Je dis, mais en fait, j'ai développé l'habitude autour de la bière et j'ai pas intégré en fait le vin dans mon truc, quoi. J'en bois de temps en temps, mais.
Mais peu. Donc merci Richard. Revenons au travail de la marque.
Oui.
Est-ce que marque égale réussite ? Je m'explique. Peut-on réussir sans avoir de marque ? Ou à l'inverse, peut-être, est-ce que la qualité d'une marque suffit à atteindre le succès ?
Eh bien, je te dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Tu vas me dire, c'est pas la question, c'est pas la réponse. Tu peux réussir sans marque si tu fais un travail exceptionnel. Pour moi, ça c'est le cas de tous les artisans qu'on a qui viennent chez nous faire de la plomberie, de l'électricité, du machin. Tu regardes leur logo, en général, ça fait pas rêver. Ils ont pas de com, ils ont pas de stratégie, mais ils font un super boulot, ils sont là quand t'as besoin d'eux, hein, pour ceux que du coup tu trouves bien et qui ont du succès. Donc pour moi, tu peux réussir sans marque si t'es exceptionnel, mais c'est un peu comme Colombo, il a pas fait tout un marketing et tout le monde l'adore.
Non mais c'est Colombo et la marque, et cet artisan-là, est-ce qu'il n'est pas la marque de son entreprise finalement ?
Oui. Et après, la difficulté, ça va être, est-ce qu'elle peut exister sans lui, l'entreprise ? Donc finalement, t'as raison, c'est peut-être lui qui incarne la marque. Mais pas au sens d'avoir toute une réflexion, tout un dispositif, une stratégie, etc. Il fait juste son taf, il est comme il est. Et du coup, c'est pour ça que, par rapport à ce qu'on se disait avant sur l'alignement, pour moi, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que si t'es une super marque, et comme on le disait aussi, mais que derrière, il n'y a rien, c'est un ballon de baudruche, quoi. C'est-à-dire que je vais faire un achat une fois, je me fais avoir, ça nous est tous arrivé, et puis derrière, l'expérience, elle est dégueulasse, les produits sont nuls, terminé. Et je vais même être le premier détracteur de ce truc-là. Parce que plus la marque va être travaillée, en fait, plus l'attente, finalement, ou les attentes vont être élevées, parce que la promesse, du coup, est très forte. Et si derrière, je n'ai pas le produit, le service ou la prestation, mais alors là, c'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Donc, pour moi, je commencerai d'abord par être irréprochable et je ferai ensuite un travail sur ma marque parce que j'ai les bases solides. Faire l'inverse serait hyper dangereux. J'ai eu le cas, des fois, j'accompagnais un restaurant, dans une ville, et le gars m'a dit « Ouais, il va falloir qu'on fasse de la com parce que ça marche pas. » Et en fait, je vais voir les voisins, je les interroge vite fait, discrètement, je dis « Je dois aller voir le machin, comment ça se passe ? C'est quoi le bouche à oreille, finalement, de ce gars-là » Il dit « Bah, le service est pas top, la bouffe, c'est pas génial, et puis le décor est super, il y a un vrai besoin sur la ville, mais la prestation, elle est pas là, quoi. » Donc, je suis retourné voir le gars après, et j'ai dit « Bah, si on fait de la com, en fait, on va se tirer une balle dans le pied, parce que je vais vous faire venir encore plus de gens chez vous. » Mais la chambre, elle n'est pas rangée, quoi. Donc, on va juste accélérer votre faim. Quand je vous dis ça, là, à la légère, c'est une discussion qui se fait beaucoup plus délicatement face à quelqu'un qui a mis ses tripes, qui est dans son truc et qui est en mode survie. Ça m'a pris 2 heures. Et le client, il chialait à la fin. Et il me dit merci de me le dire. Et j'ai dit, merci, si tu veux. Il y a des trucs que j'aime dire qui sont plus sympas, quoi. Mais parce que personne ne me l'a dit. Et là, j'ai trouvé ça ignoble. C'est-à-dire que... Voilà. Mais bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite. Hein, oui, parce que vrai. Tu fais une connerie, tu te fais flinguer direct. Paf voilà. Et même si tu fais des trucs bien, on te flingue aussi.
Ça c'est l'inconvénient du truc.
Voilà.
Et donc, peut-être pour continuer... Ouais. Et puis, c'est une question qui suit finalement assez ouais. simplement. Comment toi, tu évalues une bonne marque, une marque que tu connais, que tu suis, tu dis, tiens, ça, c'est une bonne marque. Ou même son propre travail de marque. Comment, à quel moment, tu dis, tiens, ça y est, j'ai fait du bon travail, quoi. Comment on évalue ça?
Moi, mon curseur à moi, c'est l'alignement. Et est-ce que la marque arrive à me faire ressentir ? Il y a des exemples qu'on a tous entendus qui sont juste... c'est un truc extraterrestre. Le patron de Patagonia qui dit « Voilà, je donne ma boîte à la planète. » Qui a eu les couilles de faire un truc aussi puissant pour prouver son engagement ? Et en même temps, c'est une boîte qui fait de l'argent, donc il ne comprend pas, machin, mais ouais, mais ça fait de l'argent, t'as vu le prix des fringues, etc. Oui, mais eux, leur objectif, c'est que toute la marge générée par ces trucs-là, elle sert à payer les gens pour qu'ils vivent bien, parce que ça fait partie de leur philosophie, et tout ce qui reste, on va s'en servir pour la planète. Basta. Et personne n'allait aussi loin. Et c'est la façon de traduire ce qu'il y a derrière, et de le rendre accessible, palpable, d'une manière qui soit sincère et alignée, en fait. Mmh. C'est vraiment ça, quoi. Mmh. Qui me fait dire, putain, le mec, il est bon, là. Il y a des marques comme Back Market que j'adore parce que c'est une grosse machine, c'est hyper bien fait. Mais je trouve qu'ils ont une tonalité qui est toujours cool, quoi. Tu reçois le mail de SAV, il est cool. Tu reçois la fiche technique qui te dit comment renvoyer le truc. Il y a de l'humour dedans, etc. Et en fait, c'est leur état d'esprit, c'est leur vision du monde, et ils nous la font partager. Et du coup, moi, j'aime. Et quand une marque a des... Et je fais beaucoup de tests, en fait. J'ai besoin de vivre l'expérience avec la marque pour pouvoir checker si c'est vrai. Donc, par exemple, il y a plein d'entrepreneurs qui lancent des trucs, là, aujourd'hui, avec du gel douche en bâtonnet, ou ceci, ou cela. Et ben, je fais une commande, et je veux voir. Et si tout le parcours, en fait...
Toute l'expérience dans le parcours
d'achat.
Dans
le parcours d'achat, ouais. Effectivement. Ce qu'on appelle expérience, en fait, si on veut le détailler, c'est ça. C'est en fait toutes les petites étapes, tout ce que je vais avoir comme interaction à chaque point de contact avec l'entreprise. Est-ce que chacun de ces points de contact-là est fidèle ? C'est-à-dire, est-ce que... Je reprends l'exemple de Colombo. Ah ouais, il est toujours crade, il a toujours sa 403, il est machin truc. Et il n'y a pas, à un moment donné, un message tout froid ou tout bizarre qui vient me casser cette...
Ouais, à un moment, il tire sa manche et envoie une Rolex, par exemple.
Ouais, et là, on se dit... What the fuck ? Allez, se voiser. Et quand tu parles avec quelqu'un, et tu dis... mais non, mais je le connais, il ne fera jamais ça. Puis un jour, il le fait. Et tu fais, c'est quoi ce bordel ? En fait, mais je ne comprends pas. Je suis déçu, en fait, quoi. Et je pense que c'est assez simple. Pour moi, c'est ça. La vraie puissance d'une marque, c'est de te donner envie de continuer à te renseigner sur eux. Comme une personne qu'on rencontre, en fait, qu'on trouve super intéressante, on a envie de passer plus de temps avec elle. Moi, ça, c'est mon truc.
Ça doit être aligné. Je continue maintenant sur un truc encore plus pratico-pratique, ouais. parce que des gens qui écoutent ce podcast ne connaissent pas forcément le travail. Moi, la question que j'avais de te poser, Richard, c'est est-ce qu'il y a une routine ou quelle est peut-être la première chose que tu fais le matin, la routine d'un responsable de marque?
Alors, je suis quelqu'un d'affreusement pas routinier. D'ailleurs, c'est un vrai problème, c'est que je sais pas m'appliquer de routine. J'ai l'impression que je meurs quand je fais ça. J'ai pas de routine. Moi, en tant que directeur de marque, si je pouvais dire, ma façon, moi, c'est de m'assurer, en tout cas, qu'avec les équipes, on est aligné sur la vision de la marque. Donc, je suis plutôt dans les logiques d'inspiration, de choses comme ça. Moi, si j'avais une routine, ça serait de m'assurer que faire une petite blague le matin pour m'assurer que les gens sont bien, etc. Et après, d'être en vigilance sur comment on a traité tel message ou tel message. J'adore aussi, s'il y a bien un truc, d'arriver le matin et de leur balancer « Tiens, putain, j'ai vu un truc hier, oh, c'est génial !» Et du coup, j'arrête pas de les faire chier avec des trucs que j'ai lus, une pub que j'ai vue que je trouvais top, etc., machin truc. Et en fait, c'est de les alimenter en permanence avec des choses qui viennent de l'extérieur pour insuffler ou pour essayer de se dire « Et comment ça, chez nous, ça pourrait ?»« Comment est-ce que ce truc-là, on pourrait chez nous ?» Moi, c'est comme ça que je...
Ouais, c'est une vraie technique d'alignement, parce que jusque dans tes équipes, on a l'impression que l'esprit de la marque, l'expérience de la marque va être une traduction aussi... Et doit être aligné avec l'esprit de l'équipe qui va travailler dessus.
Et quand on parle d'alignement, c'est tout le sujet. C'est-à-dire que quand je dis que tout est marque, quand je dis ça, je le pense vraiment. C'est-à-dire que si on dit, je prends l'exemple de VNB, quand on dit pour vous VNB, c'est quoi ? Convivialité. Je dis OK. Et ben, si le travail au sein des équipes ne respire pas la convivialité, je vais considérer qu'on est une marque flambie. Ouais, donc je me dois moi-même, en tant que manager d'équipe et auprès de la direction, de me battre en tant que responsable de marque pour m'assurer qu'on ne fasse pas des choses qui soient à l'encontre de tout ce qu'on écrit en permanence, parce que sinon c'est l'effet baudruche dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas baptisé directeur marketing, mais directeur de l'expérience de marque, parce que je suis le casse-couille à 360 de ses pas dans la marque. Et la marque est un garde-fou. Parce que quand on parle de technique, en fait, mais comment on fait pour être aligné ? Pour être aligné, c'est pas compliqué. On écrit un truc.
Un cadre,
une mission, une vision, des valeurs qui se traduisent en comportement, avec des rituels qui incarnent cette dimension. Et on doit le suivre comme une religion. J'aime bien être un petit peu...
strict.
Chiant là-dessus.
Ouais. Mais du coup, c'est super intéressant, parce que ça allait avec ma future question, c'est à se dire que aujourd'hui, si on parle de la marque VNB, sur quel support elle est présente et pourquoi, je pense aux auditeurs peut-être qui ne connaissent pas trop bien notre métier, mais pourquoi on a besoin d'être présent partout ? Pourquoi les camions sont de la même couleur que le site internet ? Pourquoi ce qu'on va trouver sur la carte de visite, ça va être on va le retrouver sur la même couleur sur le mur de la boutique ou du magasin ou du bar ou de la cave VNB par exemple.
Ouais, alors là on est plus sur des notions de de notoriété au sens large, quoi. C'est-à-dire que l'identification de la marque doit être la plus cohérente possible. Si vous regardez l'ancien logo VNB, c'est pas très compliqué, vous tapez VNB image logo et vous allez voir un truc rouge, jaune, machin chose. En fait, ce logo-là, pour ceux qui le connaissent, c'est le logo historique, donc il a fait son taf. Mais il avait un vrai problème, pour illustrer ton propos, c'est que en fait, la façon dont il était écrit faisait qu'on pouvait le prononcer de minimum 4 façons différentes. On avait des gens qui nous appelaient VB, d'autres VEB, certains VNB et d'autres vin et bière, parce que oui, malencontreusement, il y avait écrit vin et bière dans le disque à droite. Et donc du coup, quand on a une marque, si on ne nous reconnaît pas sur tous nos supports, on parlait de points de contact tout à l'heure, c'est aussi la même chose, si à chaque fois que je croise un VNB, un coup il est bleu, un coup il est vert, un coup il est jaune... Bah, quand je vais dans une ville, moi je suis habitué à celui qui est bleu, je ne vais pas forcément identifier qu'il y en ait un là, parce qu'il est jaune cette fois-ci. Et donc du coup, on essaye d'avoir une sorte d'harmonie pour que partout où je croise un élément de la marque, je puisse le rallier. Ce qui veut dire que si mon chauffeur, que j'identifie comme un chauffeur VNB, conduit comme un sagouin, ben, il impacte ma marque aussi.
Ouais, même au-delà de la couleur du camion, c'est même aussi le comportement de conduite du chauffeur.
On a des trucs assez rigolos parce qu'on a notre camion levrette, parce qu'on avait un camion qui était floqué levrette.
Oui, on l'a tous vu.
Il se fait arrêter par les gendarmes, ils se prennent en photo devant.
Je connais très peu de marques de produits quand même qui ont cet effet-là.
Ouais,
d'accord. Après, c'est peut-être pas du coproduit lui-même.
Non.
Bon, Richard, j'ai deux questions pour finir cet épisode. Mmh. La première, elle est juridique. C'est-à-dire, on se rend compte de la valeur que l'on crée quand on fait une marque. Quand on travaille une marque, on crée cette valeur-là. Cette valeur-là, il faut aussi la protéger. Mmh. Comment on protège la marque, ou plutôt, quels sont les risques liés à la marque si cette valeur-là, elle est empruntée? Quels sont les risques d'un point de vue juridique? Quels risques, quels garde-fous on peut mettre en place?
Alors là, c'est hyper basique. Déjà, quand on choisit une marque, si on part de zéro, hein, donc on va faire tout le travail d'identification de
naming,
pourquoi faire, machin, qu'est-ce que ça fait, tatatac, pour que le nom qu'on trouve soit déjà éventuellement une expression de ce vers quoi on veut aller. Par exemple, vous, si vous avez choisi Audio Tactique, j'imagine bien que tactique,
stratégie.
Audio, voilà, sans bon, ok. C'est-à-dire que
on n'est pas des dessinateurs. Hein,
voilà,
c'est
ça. On a trouvé un nom. Super. Déjà, on va voir sur l'INPI. Est-ce que cette marque a déjà été déposée? Alors, on peut avoir une marque équivalente si elle n'est pas dans le même secteur. Donc, on va choisir son domaine d'activité. Et dans le domaine d'activité, il faut que je sois le seul ou qu'il n'y ait pas d'historique de gens avant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lancer ma marque et puis un gars qui va m'appeler un matin et il va me dire « Écoutez, je suis désolé, mais cette marque m'appartient, donc il faut que vous changiez de nom. » Et si c'est passé 3 ans, t'as tout ton historique d'entreprise, tu fous la poubelle, c'est quand même assez gênant. Donc il y a déjà une première étape qui est d'aller voir sur l'INPI avant de déposer, avant de choisir sa marque. Parce qu'on peut très bien, là, décider autour de la table qu'on va lancer une marque. Et on fait des logos, des trucs, des machins. Il n'y a personne qui va nous empêcher de rien, en fait. Quoi. C'est à nous de faire le travail. Donc, l'INPI, c'est la première étape. Deuxième étape, il va quand même falloir qu'on puisse communiquer. Il va nous falloir un site web. Donc, aller chercher si le nom de domaine est disponible, c'est le deuxième truc. Et trouver aujourd'hui une marque disponible et à l'INPI et en nom de domaine, ça commence à devenir
saturé.
Ultra touchy. Ouais. Moi, je prends quasiment plus ces sujets-là. Parce que quand je les prends, je dis aux gens, vous êtes conscients que je vais vous demander de l'argent, et soyez aussi conscients que je ne suis pas certain de vous trouver une solution. Et ça, ils ont du mal hein, quand même, quand tu parles à un client, que tu lui dis, tu me payes, mais peut-être ça n'a pas marché. Et ensuite, alors pour terminer, répondre à ta question de manière plus technique, donc au début, quand on est une petite entreprise, ces deux étapes-là sont suffisantes, puis on peut vivre comme ça. Quand on a une boîte qui commence à prendre un grand développement, comme c'est le cas de VNB aujourd'hui, quand tu passes de 5 à 273 magasins, un site internet, un festival, machin, etc. Du coup, les conséquences potentiellement économiques sont beaucoup plus fortes. Donc, les moyens à mettre en œuvre pour protéger la marque sont aussi plus importants. Donc là, la recommandation simple, c'est de se rapprocher d'un cabinet d'avocats en protection de marque et puis de négocier le forfait en fonction de ses moyens pour qu'il fasse ce travail de surveillance, de protection, de défense.
On a parlé de la marque aujourd'hui, de ton expérience sur le travail de la marque. Ma dernière question, c'est comment tu vois l'avenir? Ça veut dire de se dire, est-ce qu'on travaillera la marque de la même manière dans une dizaine d'années? On sait que les outils évoluent rapidement, tu me vois arriver, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Qu'est-ce qui va rester de ce travail de marque dans plusieurs années, ou comment il va évoluer selon toi?
Je pourrais te donner mon rêve de ce que deviendrait tout ça, parce qu'en fait, je maîtrise que dalle.
Avec plaisir. Alors, quel serait ton rêve?
Moi, mon objectif, c'est d'agir au quotidien pour que le marketing servent un monde meilleur et deviennent ce que je rêve qu'il soit depuis toujours. Donc c'est très utopique, très idéaliste, mais j'ai un petit espoir. Je suis tombé, et ça va d'ailleurs être mon prochain sujet d'études ou d'auto-apprentissage, en tout cas mon nonos à ronger autour de ce qu'est marketing communautaire. Alors pour faire simple, les réseaux sociaux ne sont pas des communautés pour moi. Je vais faire radical. Maintenant, il faut mettre des budgets, des... Donc, ce sont en train de devenir des médias. Donc on a des audiences en fait sur les réseaux sociaux. Et là, si Noémie Kem fait écoute ce podcast, elle va dire il est en train de me spolier mon bouquin. Mais non, je fais la promotion du coup. Mais j'ai adoré cette approche qu'elle développe dans un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des communautés. C'est-à-dire qu'on a des clients, c'est transactionnel. On a des audiences, que ce soit sur les réseaux sociaux, la presse, machin, etc. Donc des gens qui regardent. Et on a des gens qui sont engagés. C'est cela qu'on appelle vraiment la communauté. C'est ceux qu'on va pouvoir solliciter, mobiliser, et qui nous aiment vraiment, et qui vont être nos gardiens aussi. C'est-à-dire que ma communauté, si jamais je commence à partir en vrille, elle va m'alerter. Elle va me dire, mais dis donc, Colombo, là, tes nouvelles New Balance, là, ça ne nous va pas du tout. Et donc, j'aime...
La communauté connaît plus la pointure de Colombo que Colombo lui-même.
Peut-être bien, ouais. Et donc, ça veut dire que là, on a des gens qui nous aiment, déjà, c'est sympa, mais qui attendent de nous qu'on soit utile. Donc, ils nous ramènent aussi à la fonction initiale de l'entreprise, qui n'est pas de faire de l'argent, mais de rendre un service. Et si ce service est bon et qualitatif ou exceptionnel, qu'il soit cher ou pas, je veux dire, là, ça, enfin, même très cher, mais complètement égal. Que des gens gagnent de l'argent et soient riches, j'ai aucun problème avec ça. Ce qui me gêne, c'est la notion de valeur par rapport au travail fourni, des fois, où c'est un peu... ou la notion de domination, d'obligation. Mais les communautés vont aussi avoir ce rôle fondamental de rentrer... c'est-à-dire que les entreprises sont déjà en train de devenir poreuses. On voit bien les réseaux sociaux, tu peux plus rien planquer. Donc, cette évolution un petit peu de sociale... va obliger l'entreprise à la transparence, ce que je trouve absolument génial, parce qu'on n'a rien à cacher normalement, sinon c'est que c'est sale. Donc de la transparence, et on en vient aussi à ce dont on entend de plus en plus, de la co-création, de la co-machin, nanana. Et du coup, on va intégrer les clients dans des phases de réflexion, de création, etc. C'est un vrai sujet qu'on est en train d'initier chez VNB et qui va prendre des années à se mettre en place parce que ça se décrète pas comme ça d'un coup de pouce. Et en fait, je lisais La convivialité d'Ivan Illich et je vous laisse imaginer comment le marketing communautaire pourrait éventuellement faire que ce rêve philosophique puisse devenir réalité.
Écoute, merci Richard, merci de ton engagement. C'est vrai que tu nous as dit que tu promettais de partager tes informations. Merci de nous avoir partagé ton expérience avec autant de détails et de bibliographie, on peut dire. Donc, Marqueur, l'heure de la marque, touche à sa fin. Cet épisode-là, en tout cas. Bien sûr, vous pouvez retrouver la marque VNB auprès des différents magasins. Okay, on peut les trouver aussi sur Internet. Merci donc Richard d'avoir été notre invité. Merci aussi à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
D'avoir eu la patience, ouais.
Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le faire savoir. Bah, ça nous aidera à promouvoir ce podcast, mais à promouvoir aussi ce métier, ce travail aussi essentiel qu'on le pense, qui est celui de la marque. On vous dit à bientôt.
Merci à vous.